Décryptage, Marie Casadebé.
Aux Philippines, la région autonome Bangsa Moro est née la semaine dernière. Les musulmans de ce pays à grande majorité catholique ont donc leurs terres. Le référendum du 21 janvier, le fruit de 40 ans d'insurrection menée notamment par le MILF, un mouvement qui va administrer cette nouvelle région jusqu'à l'organisation d'élections en 2022.
Nous sommes prêts à quitter nos uniformes de combattants pour gouverner.
La population musulmane du sud des Philippines espère maintenant un meilleur développement de leur région, mais aussi la paix. Or, dimanche, un double attentat contre une cathédrale est venu leur rappeler l'ampleur du défi. L'autonomie peut-elle répondre à la violence et permettre aux musulmans de trouver leur place aux Philippines? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Frédéric Durand.
Bonsoir.
Vous êtes en ligne avec nous de Toulouse, dans le sud-ouest de la France, où vous êtes professeur de géographie à l'Université Toulouse 2, spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Il existait déjà une région autonome dans le sud des Philippines. Pourquoi en avoir créé une nouvelle qu'on appelle Bangsa Moro?
En fait, c'est une région qui existe effectivement depuis 1989, mais qui se raffermit, qui est un peu augmentée, et surtout où les autorités musulmanes vont avoir plus de pouvoir d'administration.
Expliquez-nous juste ce que représente cette nouvelle région, combien d'habitants et en grande majorité musulmane?
Alors, c'est pas forcément un très gros territoire, c'est moins de 4 millions d'habitants, donc ça correspond à peu près à 3 à 4% de la population des Philippines qui fait plus de 100 millions d'habitants, et c'est environ 4% du territoire, donc c'est vraiment une partie du sud de l'archipel des Philippines qui numériquement pourrait paraître ne pas compter, mais qui constitue une source de conflit depuis au moins les années 70.
Alors lorsqu'on le regarde, on regarde la carte de cette nouvelle région, on peut être un peu surpris par sa forme. Elle n'est pas contiguë, il y a une partie seulement de l'île de Mindanao, la grande île du sud, et puis un chapelet de petites îles. Qu'est-ce qui explique ce dessin?
Alors, en fait, c'est un peu expliqué par deux phénomènes, à la fois l'arrivée de l'islam aux Philippines, qui arrive en fait au XIVe siècle, le long des routes commerciales qui liaient le Moyen-Orient avec l'Asie. Et donc les musulmans sont remontés et ont créé progressivement des sultanats avec les populations locales qui se sont étendues jusqu'au sud des Philippines. Et d'un autre côté, il y a eu la colonisation espagnole à partir du XVIe siècle, qui elle est arrivée plutôt du nord des Philippines et a entraîné une conversion catholique de tout le nord de l'archipel.
Il n'y a jamais eu d'installation de catholiques dans le sud ou inversement, finalement, ces frontières un peu symboliques sont restées comme elles étaient?
Ah non, alors justement, ça c'est le gros problème qui amène au souci aujourd'hui, c'est que pendant l'essentiel de la colonisation espagnole, c'est-à-dire jusqu'à la fin du 19e siècle, il y a eu une partition nord-sud où le Mindanao était à plus des trois quarts musulmans. C'est avec le passage de la colonisation de l'Espagne aux États-Unis, puisque les États-Unis se sont substitués aux Espagnols pour coloniser les Philippines à partir de 1898, et ce sont les Américains qui ont mis en place des programmes de déplacement de population, donc du nord, surtout catholique, vers le sud, ce qui a amené progressivement une île, donc une région du sud, et particulièrement l'île de Mindanao, qui était majoritairement musulmane, à voir les musulmans devenir de plus en plus minoritaires, notamment à Mindanao.
Et c'est pour vous l'explication des revendications autonomes musulmanes qui sont apparues ces dernières décennies aux Philippines ?
Ah, complètement. C'est-à-dire que les musulmans représentaient dans le sud des Philippines plus des trois quarts de la population. Et en fait, on voit que les troubles qui sont liés donc à ces programmes de déplacement, qui ont commencé avec les Américains, mais qui ont continué avec les gouvernements philippins à l'indépendance, ça va jusqu'à la fin des années 60, début des années 70, le moment où les musulmans commencent à devenir minoritaires dans la région.
Ça veut dire qu'à quel moment naissent, quelle période, les revendications autonomes musulmanes aux Philippines, comme on a pu les connaître, et notamment à travers le MILF, ce mouvement dont on va reparler?
Il apparaît en 1972, donc tout début des années 70, mais les troubles avaient, eux, commencé, les tensions, notamment entre catholiques et musulmans, à la fin des années 60.
Ça veut dire que la coexistence entre musulmans et catholiques a toujours été compliquée sur l'île de Mindanao. Comment on pourrait les résumer ?
Elle est devenue de plus en plus compliquée. C'est-à-dire qu'au début, c'était des implantations ponctuelles dans une île qui n'était pas très densément peuplée. Donc, d'installations surtout d'agriculteurs, de paysans catholiques. Donc, à certains moments, quand c'était des zones pas très densément peuplées, ça ne posait pas forcément de soucis. Il y avait cohabitation, coexistence de populations. Mais à partir du moment où les musulmans ont commencé à se sentir en minorité, ça a créé des tensions, y compris sur l'accès aux ressources, notamment forestières.
Donc un sentiment de colonisation et une quête d'autonomie manifestement largement partagée, puisque la semaine dernière, 85% des 3 millions d'habitants de cette région qui ont voté pour l'autonomie, comme ce Philippin, interrogé le jour du vote par notre correspondante Marianne Dardard à Cotabato.
La ratification de la loi sur l'autonomie du Banque Samoro permettra de pacifier notre île de Mindanao, mais aussi de relancer le développement tout en scellant la réconciliation entre les gens de Mindanao. Depuis la colonisation espagnole jusqu'à aujourd'hui, les musulmans du sud philippin réclament le droit à l'autodétermination. L'échec du référendum serait pour nous comme un retour à la case départ.
Frédéric Durand, vous l'évoquiez, cette nouvelle région à majorité musulmane, donc dans le sud des Philippines, a de nouvelles prérogatives, grâce évidemment à son autonomie. Quelles nouvelles prérogatives par rapport au pouvoir de l'État central de Manille ?
Notamment des prérogatives en termes de sécurité, de gestion des populations, et puis le renforcement de l'autonomie pour garder une partie des ressources naturelles, et des impôts. Pour les activités dans la région et pas renvoyées vers le gouvernement central. Donc une plus grande autonomie aussi financière.
Pourquoi ces sujets-là en particulier, ils avaient le sentiment d'être pillés peut-être par des autorités centrales qui ne faisaient pas ne partageaient pas les fruits de ces ressources ?
À la fois piller et ne pas pouvoir allouer les ressources dans les domaines qu'ils souhaitaient.
Alors ces revendications d'autonomie sont portées notamment par le MILF, je disais, le Front Moro Islamique de Libération, qui va se battre pendant près de 40 ans contre le gouvernement central philippin, jusqu'à l'accord de paix signé en 2014, qui prévoit justement l'autonomie d'une partie du sud du pays. Et c'est ce MILF maintenant qui va devoir assurer la transition dans la région, jusqu'à l'élection d'un parlement en 2022. Frédéric Durand, est-ce que cette ex-rébellion a les capacités d'administrer une région? Il ne suffit pas de savoir se battre pour gérer, comme vous le dites, une région qui compte plusieurs millions d'habitants.
Alors là, sur la question de la gestion, oui, puisqu'il y a quand même, une administration locale dont on peut espérer qu'elle soit capable de le gérer. Ce qui risque plutôt d'être source de tension, c'est le fait qu'il y a d'autres groupes plus radicaux qui, eux, n'acceptent pas forcément les résultats du référendum.
Alors, on va y venir, évidemment. J'ai demandé à Romain Kivoy, chercheur associé au Centre d'Excellence pour la Sécurité Nationale de l'Université Nanyang Technological de Singapour, ce que représentait encore le MILF. Interview réalisée un peu plus tôt cet après-midi pour cause de décalage horaire.
C'est une guérilla ancienne, mais aussi toujours active, en fait. Alors, le Front islamique rassemblerait environ 10 000 combattants, d'après des estimations qui ont été faites il y a quelques années déjà, en 2015. Les leaders actuels, en tous les cas, du groupe sont attachés au processus de paix. Mais on a certaines factions qui sont entrées en dissidence et qui ont décidé de poursuivre la lutte armée.
Le référendum, l'obtention finalement de l'autonomie de cette région, était aussi lié au désarmement du MILF. Est-ce que vous pensez que la plupart sont prêts à déposer les armes après un conflit qui a duré plus de 40 ans ?
Il y a déjà une partie en fait de l'arsenal qui a été remis il y a quelques années, en 2015. C'était une des conditions de l'accord de paix en fait qui avait été signé en 2014. Cela étant, les armes, en fait, sont loin d'avoir tout été remis et on est encore très loin de ce qui s'est passé, par exemple, en Irlande du Nord, il y a une vingtaine d'années, où ou actuellement en Colombie, où le processus de désarmement est beaucoup, beaucoup plus avancé.
Alors généralement, pour qu'un désarmement se passe bien, il faut de la confiance réciproque. Est-ce que vous pensez qu'aux Philippines, le gouvernement et le MILF sont parvenus à une confiance, une certaine confiance dans cet accord de paix ?
En termes de confiance, c'est intéressant que vous mentionnez ça, puisqu'il y a 2 ans, en 2017, l'armée des Philippines et le MILF en fait, se sont coordonnés pour combattre ensemble un groupe de combattants dissidents, en fait. Et c'était, après avoir combattu les uns contre les autres pendant des décennies, on a assisté comme ça à une coordination assez inattendue entre d'un côté l'armée et puis de l'autre le Front islamique. Depuis l'accord de paix qui a été signé en 2014, clairement il y a des pas qui ont été faits de la part des deux côtés et ces pas vont dans la bonne direction, je pense.
Alors le Front Moro Islamique de Libération revendiquait avant tout l'autonomie donc, de cette région du Sud pour les musulmans philippins. Frédéric Durand, à quel point la religion est vraiment présente dans leur combat, dans le combat de ce mouvement, le MILF, par rapport à un islamisme radical qui est apparu un peu plus tard dans l'archipel ?
Alors, l'islam en Asie du Sud-Est joue un rôle assez particulier, puisqu'au départ, c'était un islam très culturel, même beaucoup moins rigoureux que l'islam qui était pratiqué au Moyen-Orient, notamment les femmes étaient rarement voilées en Asie du Sud-Est, mais il y a eu, à partir des années 70, avec notamment les pétrodollars et l'influence du Moyen-Orient sur toute la communauté musulmane, les communautés musulmanes du monde, une sorte de raffermissement, de plus grand rigorisme, et qui se traduit aussi par plus de radicalisation, en tout cas de certains groupes.
Est-ce que c'était déjà le cas du Front Moro Islamique de Libération ? Il a suivi, comme vous le décriviez, ce mouvement de raffermissement avec une présence religieuse et d'une religion plus stricte imposée finalement à cette région, qui risque aussi d'avoir une influence sur cette région autonome du Bangsa Moro ?
Oui, parce que effectivement, puisque notamment l'application de la charia devient quelque chose de plus rigoureux et est présentée désormais comme une condition de bonne pratique de l'islam, alors que c'était beaucoup moins le cas il y a 50 ans, par exemple.
À quel moment diriez-vous que l'islamisme radical, comme on peut le connaître ailleurs, notamment à travers Al-Qaïda ou l'État islamique, est apparu aux Philippines ?
Ça commence sans doute au début des années 70, un peu avec le choc pétrolier, et notamment il y avait même eu un premier accord pour essayer d'avancer vers justement une pacification du sud des Philippines en 1976, avec déjà à l'époque Kadhafi, et il y avait eu un accord de Tripoli qui avait été signé en 1976 pour essayer d'arriver à une région autonome, mais qui avait d'ailleurs été en échec parce que le président Marcos à l'époque avait organisé un référendum qui n'avait pas permis d'obtenir une majorité pour la création d'une région autonome à l'époque, à la fin des années 70.
Le président actuel Duterte est originaire de l'île de Mindanao, il était maire de la ville de Davao. Est-ce que depuis son élection en 2016, on sent une attention plus particulière pour le sud de l'archipel ? Est-ce qu'il a œuvré justement, notamment pour en arriver à ce référendum et cette autonomie ?
Absolument, c'est quelqu'un qui donc connaît bien la région, même s'il est originaire de Davao, qui est dans une partie beaucoup plus catholique de cette île. Et il a même proposé de passer à un système fédéral, c'est-à-dire que pour renforcer l'autonomie des différents États, le Bangsa Moro pourrait devenir un État d'une fédération des Philippines.
Alors on en vient à ce double attentat qui a visé dimanche une cathédrale de Jolo, donc sur l'île du même nom, qui fait partie de cette nouvelle région autonome musulmane. Les enquêteurs pointent du doigt le groupe Abu Sayyaf. J'ai demandé à Romain Kivoy, chercheur donc à Singapour, de nous en dire un peu plus sur ce groupe.
Le groupe Abu Sayyaf a été fondé dans les années 90. C'est un mouvement qui, à la base, se revendiquait d'une idéologie islamiste, mais qui, depuis déjà pas mal d'années, verse dans le kidnapping, dans l'extorsion, et puis de plus en plus dans la piraterie. Et donc qui s'est en quelque sorte gangstérisé et agit à bien des égards comme étant une organisation opportuniste en fait. Il faut aussi savoir que c'est un groupe qui est extrêmement fragmenté. Il y a des factions en fait qui sont soit autonomes, soit indépendantes les unes par rapport aux autres, mais qui se revendiquent du groupe Abu Sayyaf, mais qui, dans les faits en fait, agissent en autonomie ou indépendamment les unes des autres. Donc c'est une nébuleuse plus qu'un groupe insurgent.
Quel était selon vous le message de ces terroristes ?
On ne sait pas exactement si l'attaque de dimanche a été organisée et perpétrée en réponse au référendum. En fait. Il est possible que ce soit le cas, puisque la région Mindanao a voté en faveur du référendum, mais celui-ci a été rejeté dans la province de Sulu, où se trouve Jolo et où donc a eu lieu l'attentat.
Ça veut dire que ça pourrait être des représailles envers la population qui a voté majoritairement contre ?
D'après les autorités locales, en fait, l'attaque pourrait avoir été perpétrée en fait, pour en représailles à la mort de membres du groupe Abu Sayyaf qui ont été tués au cours d'opérations militaires par le passé. En fait. Donc, vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'indication qui permet de laisser penser que c'est une réponse directe au référendum, d'autant plus que l'attaque a eu quand même 6 jours après le résultat du référendum, ce qui est quand même assez tard.
Autre insurrection islamiste présente aux Philippines, le groupe État islamique. On se souvient du siège de Marawi à l'ouest de Mindanao en 2017, près de 5 mois de bataille. Que sait-on de la présence du groupe aux Philippines ? Élément de réponse du chercheur Romain Kivoy.
L'influence de l'État islamique aux Philippines a fait l'objet depuis maintenant 2-3 ans de spéculations assez fortes de la part des chercheurs, de la part de membres des forces de sécurité aussi dans la région. Ce qui est certain, c'est qu'il y a plusieurs chefs de factions armées, notamment factions qui relèvent d'Abu Sayyaf, qui ont prêté allégeance au fondateur de l'État islamique. Et on sait aussi que l'épisode Marawi a constitué en fait une opportunité importante en termes de propagande pour l'État islamique. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, les Philippines représentaient un peu le centre de l'attention aux djihadistes en fait. Il y a aussi des djihadistes étrangers qui ont été récemment tués et identifiés comme étant des ressortissants des pays de la région, notamment la Malaisie et l'Indonésie, mais aussi comme étant des ressortissants de pays plus lointains et notamment l'Arabie Saoudite. À titre personnel, je pense que cette influence elle est réelle, qu'il ne faut pas la sous-estimer, mais qu'il ne faut pas non plus la surestimer, puisque l'État islamique c'est avant tout un argument marketing qui permet de labelliser l'action armée. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'État islamique envoie de l'argent, des hommes ou des armes aux Philippines. Le deuxième élément qui, à mon avis, est aussi important, c'est que l'insurrection à Mindanao, donc dans le sud des Philippines, c'est une insurrection qui a des causes extrêmement locales aussi, extrêmement endogènes. Et que bien souvent, la religion, c'est un prétexte, c'est-à-dire une excuse pour poser des bombes, mais ce n'est pas forcément la véritable raison qui explique et qui permet de comprendre le conflit.
Alors, à vous entendre, il y a beaucoup de factions islamistes et de concurrence entre elles. Ça veut dire que finalement, l'accord de paix avec le MILF et les référendums de la semaine dernière ne suffiront pas à ramener la paix aux Philippines ?
Le problème numéro un, c'est que l'accord de paix est un accord qui prend beaucoup de temps à être mis en œuvre. En fait. L'accord de paix a été lui-même signé en 2014. En 5 ans, pour être honnête, il n'y a pas grand-chose de concret qui a été fait, qui a été accompli jusqu'à présent. Le deuxième point qui laisse penser que la violence va continuer, c'est que dans quasiment tous les conflits armés de ce type, qui sont des conflits qu'on appelle irréguliers, c'est-à-dire où il y a principalement des groupes terroristes ou des mouvements de guérilla, il y a des factions qui cherchent à faire dérailler la paix, soit parce que c'est dans leur propre intérêt, soit par idéologie. Et enfin, le troisième point, c'est que tant que le gouvernement aux Philippines et les responsables locaux à Mindanao vont pas s'attaquer aux problèmes structurels de la région, et en particulier au sous-développement et à la pauvreté, eh bien la violence armée elle va continuer tout simplement sous une forme ou sous une autre.
Frédéric Durand, pour conclure, on l'entend, comme dans beaucoup de pays finalement, c'est la pauvreté, le manque d'avenir qui est le terreau du terrorisme. Est-ce que vous pensez qu'en gagnant en autonomie, cette région pourrait combattre justement l'islamisme radical et le terrorisme ?
C'est une possibilité, mais il y a un autre souci aussi, qui est celui de l'identité, et notamment, comme vous le soulignez tout à l'heure, il y a une hétérogénéité, et les insulaires, parce qu'il y a la partie Mindanao, et puis il y a les îles un peu plus petites, notamment le sultanat de Sulu, qui considèrent qu'ils appartiennent pas forcément à ce groupe Bangsamoro, et qui envisagent aussi de demander une autodétermination pour le sultanat de Sulu, qui historiquement était un des plus importants de la région. Donc il pourrait y avoir même à l'intérieur de ce Bangsamoro des velléités séparatistes. Et notamment en mars l'année dernière, le sultan de Sulu a demandé l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour devenir un État souverain. Donc effectivement, il y a encore beaucoup de sources potentielles de tensions dans la région.
Une autonomie qui donne envie ailleurs. Merci beaucoup Frédéric Durand, professeur de géographie à l'université Toulouse 2, et merci à Romain Kivoy, contacté cet après-midi à l'université de Singapour. Merci à Éléonore Krenik, Françoise Delignon, Gérard Perrault et Claude Battista, toute l'équipe de décryptage à retrouver sur les réseaux sociaux et sur RFI.fr.